Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Vous pouvez également écouter le magazine culturel qui sera suivi par l'Indonésie en couleur. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. L'Indonésie et l'Inde continuent à intensifier la coopération. L'Indonésie et l'Inde ont beaucoup de similitudes. Le président Joko Widodo discutera la question de business et politique en Allemagne. L'Indonésie augmenterait la participation active à l'Organisation des Nations Unies. La Corée du Sud demande au Parlement indonésien d'aider à améliorer les relations bilatérales. Le moratoire des licences de terrains de palmiers à huile est de mine pour l'environnement. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie et l'Inde sont les deux grands pays d'Asie qui ont beaucoup de similitudes dans l'histoire. Cela est une forte capitale dans l'établissement de la coopération entre les deux pays. Le président du Conseil des représentants régionaux de la République d'Indonésie, M. Irman Gusman, a déclaré jeudi à Jakarta qu'avec la Chine, l'Indonésie et l'Inde devraient devenir une géante région qui est devenue le centre de la croissance mondiale. Par conséquent, selon Irman, l'Indonésie et l'Inde ont besoin d'améliorer toujours la coopération.
Sebagaimana Anda tahu, ya, Indonesia bersama India dan Tiongkok.
Comme vous le savez, l'Indonésie, l'Inde et la Chine, trois pays géants en Asie du Sud-Est, qui sont devenus le centre de la croissance mondiale. Par conséquent, cette coopération est très importante, en particulier en Asie comme centre de croissance du monde. En raison des trois pays projetés, seront les quatre pays plus grandes économies de l'année 2045 avec les États-Unis. Donc, nous devons maintenir cette relation. En plus de maintenir les relations dans un effort pour améliorer l'économie des deux pays, l'Indonésie et l'Inde, selon Irman Gusman, ont également besoin de renforcer la coopération parlementaire. Il est destiné à encourager la coopération dans le domaine du développement, de la bonne gouvernance et l'augmentation des relations communautaires entre les deux pays. L'ambassadeur de l'Inde en Indonésie et au Timor-Leste a organisé le 125e anniversaire de la figure nationaliste indienne, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, jeudi à Jakarta. Il est une figure importante en Inde qui définit la base de constitution pour le gouvernement indien et même pour les problèmes modernes qui sont actuellement confrontés dans le monde, comme la traite des êtres humains, frappée également en Indonésie. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de l'Inde en Indonésie, Ningcha Lufum Mukhopadhyaya. Selon l'ambassadeur Ningcha, l'Indonésie et l'Inde ont les similitudes qui unissent les deux pays dans les relations très étroites. En outre, ils ont la diversité, ce qui rend l'Indonésie rassemble à l'Andi dans diversos. Selon lui, l'Andi peut tirer des leçons de l'Indonésie en termes de gestion de la diversité et de combler les différences.
Coming from our own experience as an open, pluralistic democracy,
nous avons les expériences pays avec la démocratie pluraliste ouverte, une multitude de religions, d'ethnies, de langues, la culture, de sorte que nous sommes comme voir du reflet d'un miroir lorsque nous regardons l'Indonésie. Similaire mais différent pour gérer et combler les différences. L'Indonésie a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. La célébration du 125e anniversaire de la figure nationaliste indienne, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, a été assistée par l'ambassadeur de Nencha Lufum Mukhopadhaya, les autres fonctionnaires de l'Andi qui sont en train de faire la visite de travail en Indonésie, le président du Conseil représentatif régional de la République d'Indonésie, M. Irman Gusman, et les académiciens des universités à Jakarta. L'ambassade d'Allemagne en Indonésie a déclaré que le secteur des affaires et le problème politique dans le monde seront la principale discussion lors de la visite du président Joko Widodo en Allemagne du 17 au 18 avril 2016. Dans une conférence de presse jeudi à Jakarta, l'ambassade d'Allemagne a déclaré que l'arrivée du président Joko Widodo à l'Europe occidentale vise à rencontrer les hommes d'affaires allemands. Le président Joko Widodo va aussi rencontrer la chancelière allemande Angela Dorothea Merkel et le président Joachim Gauck pour discuter de la crise régionale et internationale. Pour le gouvernement allemand, la visite du président Joko Widodo est importante parce que l'Indonésie est un pays qui a une influence dans les domaines politiques et économiques. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie augmentera la participation active et le leadership dans l'Organisation des Nations Unies. Cela a été déclaré par Dian Triansyah Jani lors de la remise de ses lettres de créance au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au siège de l'ONU à New York récemment. La communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères le jeudi a déclaré, lors d'une réunion bilatérale avec Ban Ki-moon, Dian Jani Triansyah a exprimé la détermination du gouvernement indonésien de continuer à promouvoir le principe de multilatéralisme pour résoudre les problèmes mondiaux, notamment ceux qui ont un impact direct sur les intérêts de l'Indonésie. À cette occasion, Triansyah Dian Jani a également affirmé l'engagement de l'Indonésie à continuer de renforcer la coopération avec les Nations Unies et affirmer la vision de l'Indonésie à renforcer son rôle dans la mission de maintien de la paix de l'ONU. En outre, l'Indonésie continuera à encourager la liberté palestinienne et le respect des droits de l'homme dans le monde, ainsi que la coopération au développement, y compris maritime. L'ambassadeur de la Corée du Sud à l'Indonésie, Chao Teng-yang, demande l'aide du Parlement indonésien de renforcer les relations bilatérales entre la Corée du Sud et l'Indonésie. Cela a été déclaré par Chao Teng-yang quand il a rencontré le président du Parlement indonésien, M. Ade Komarudin, au Parlement Jakarta jeudi. Selon lui, jusqu'à présent, l'Indonésie est le premier stratégique de la Corée du Sud en Asie et dans le monde entier. Les relations entre les deux pays sont très bonnes. L'Indonésie et la Corée du Sud sont les partenaires stratégiques en Asie et dans le monde. Le président indonésien Joko Widodo va imposer un moratoire sur l'octroi de licences de nouveaux terrains de palmiers à huile et de mines. Le plan de l'application de moratoire est comme un effort pour préserver l'environnement. Le président Joko Widodo, tout en participant au mouvement national de sauvetage de la flore et la faune sauvage dans le cadre de la Journée internationale de la forêt sur l'île de Karya, aux Mille Îles, a déclaré jeudi que les terrains de palmiers à huile qui existent aujourd'hui étaient suffisants et peuvent être augmentés la capacité de production en maximisant le potentiel existant. De même avec les terres de mine, selon le président, le gouvernement ne donnera pas les licences aux sociétés minières de défricher des terres pour l'élargissement de son territoire. Le président a souligné que l'Indonésie devait augmenter toujours ses efforts pour la conservation de l'environnement. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Septième antenne, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, le sommet de l'OCI en Turquie et des progrès du monde islamique. 57 chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique OCI ont participé au sommet à Istanbul en Turquie. L'organisation qui a été initialement nommée l'Organisation de la conférence islamique a parlé d'un certain nombre de l'ordre du jour. L'un des ordres du jour est le soutien pour les Palestiniens, qui était la résolution du sommet de l'OCI extraordinaire à Jakarta à la mi-mars 2015. Le vice-président Yusuf Kalla dirige la délégation indonésienne lors du sommet de l'OCI qui aura lieu dans la grande ville de la Turquie au bord du détroit de Bosphore. Avec le thème « La solidarité et l'unité pour la justice et la paix », le sommet de l'OCI a essayé de mettre l'accent sur l'importance de l'unité et de la solidarité des pays de l'OCI pour résoudre les défis envisagés par le monde islamique. L'appel sur la nécessité de l'unité entre les pays islamiques est très pertinent en relation avec les conflits dans certains pays islamiques et les tensions croissantes entre les membres de l'OCI. L'Indonésie, comme l'a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a exprimé sa gratitude pour les citoyens des États membres de l'OCI à l'initiative de l'Indonésie d'établir le groupe de contact de l'OCI sur la paix et la résolution des conflits. L'Indonésie a confirmé qu'un tel groupe de contact peut être un moyen pour trouver des solutions aux conflits. Ensuite, la question se pose, est-ce que les efforts vers la paix par le dialogue et l'augmentation de la solidarité peuvent se réaliser plus tôt? Sans être plus pessimiste, on peut faire valoir que l'aspiration vers cela prend encore le temps. Dans le cas de la guerre civile en Syrie, par exemple, les pays membres de l'OCI, en particulier ceux étant les voisins proches, ont des principes et le point de vue différents. La disharmonie continue également à se produire à l'effort de soutien à l'État palestinien. Les intérêts nationaux et les différentes filiales contre les pays occidentaux peuvent être la cause de la fragmentation de principes. L'Indonésie a essayé d'encourager l'émergence de la solidarité en encourageant les résolutions de Jakarta pour reconstruire la mosquée d'Al-Aqsa. L'un des points de résolution produit en sommet de l'OCI à Jakarta, appelle l'importance de revivre la contribution financière au fonds d'Al-Quds et Wakaf par les États membres de l'OCI. Sur la base des résolutions, les fonds recueillis seront utilisés pour développer les lieux saints en ville d'Al-Quds, en particulier la mosquée Al-Aqsa. La solidarité n'est certainement pas seulement pour Al-Aqsa et la Palestine, mais pour d'autres pays à majorité musulmane qui est économiquement sous-développés et ont besoin de soutien et d'assistance. En effet, le sommet de l'OCI en 2016 à Istanbul en Turquie est un moment très stratégique pour résoudre les conflits dans les pays islamiques. Mais ce que ce sommet peut fournir en impact réel dans un proche avenir, le temps qu'il le prouvera. C'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, bonsoir. Nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de La Voix d'Indonésie de l'édition 15 avril. On va commencer le 15 avril 1989, tragédie au stade de Sheffield. Quatre-vingt-quinze personnes périssent écrasées ou étouffée contre les grilles du stade Hillsborough de 54 000 places à Sheffield, Grande-Bretagne. Les incidents se sont produits lorsque quelques 2000 supporters ont tenté de forcer l'entrée pour assister à la demi-finale très attendue de la Coupe d'Angleterre opposant les équipes de Liverpool et de Nottingham Forest. On change le 15 avril 1998, la mort de Pol Pot. Le tyran Khmer Rouge meurt d'une crise cardiaque dans sa résidence, responsable d'un régime sanguinaire qui a ravagé le Cambodge de 1975 à 1979, accusé d'autogénocide pour ses crimes contre la population cambodgienne. Il ne fut jamais jugé. Quelques rumeurs de manipulation rôderont autour de cette mort. Pol Pot risquait en effet un procès et son corps fut incinéré avant qu'une autopsie indépendante ait pu être réalisée. On termine le 15 avril 1989. Les manifestations de Tiananmen a été commencé. Les manifestations de Tiananmen se déroulent entre le 15 avril 1989 et le 4 juin 1989 sur la place Tiananmen à Pékin, la capitale de la République populaire de Chine. Elles se sont conclues par une vague de répression, parfois englobée sous l'expression de massacre de la place Tiananmen. Elles prirent la forme d'un mouvement d'étudiants, d'intellectuels et d'ouvriers chinois qui dénonçaient la corruption et demandaient des réformes politiques et démocratiques. La contestation s'étendit à la plupart des grandes villes, comme Shanghai, et aboutit à Pékin à une série de grandes manifestations et de grèves de la faim organisées sur la place Tiananmen. Après plusieurs tentatives de négociation, le gouvernement chinois instaura la loi martiale le 20 mai 1989 et fit intervenir l'armée le 4 juin 1989. Plus de 3000 personnes sont mortes à la suite de l'action de forces armées. Chers amis, c'était notre histoire d'aujourd'hui, ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, voici la mise au point et en pour titre. Le gouvernement a lancé le programme de synergie de l'action pour l'économie du peuple. Le président Joko Widodo a officiellement lancé le programme de synergie de l'action pour l'économie populaire au terminal agro-industrie, le village Laraan, Brebes, Central Java, lundi le 11 avril 2016. Ce programme est essentiellement l'entraide entre le gouvernement central, le gouvernement provincial, le gouvernement local, l'entreprise appartenant à l'État, les privés et aussi les gens. Son but est de réduire la pauvreté et améliorer le niveau de vie des hommes d'affaires au village en offrant la possibilité de travailler et de s'efforcer viable pour les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs. À cette occasion, le président Joko Widodo rend également Brebes comme district pilote pour d'autres districts pour effectuer le programme de synergie de l'action pour l'économie populaire. Le président a déclaré que l'Indonésie était un pays riche en agriculture, la foresterie, la mine et maritime. Depuis longtemps, l'Indonésie est connue en tant que producteur d'épices comme la muscade, clou de girofle et la canne à sucre. Toutefois, l'Indonésie n'a pas encore réussi à les gérer avec les gens. Ensuite, le programme de synergie de l'Action pour l'économie populaire est vraiment le debout. Le président a promis de continuer à suivre l'application de ce programme. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Agus Martowardoyo, a dit « Pour ce programme, la Banque d'Indonésie collaborera avec l'autorité des services financiers. » Selon lui, la présence de ces synergies pourrait stabiliser des prix des produits agricoles comme les oignons et le poivron rouge. Ces synergies seront exécutées à partir de la préparation de plantations, la technologie, l'administration des affaires, jusqu'au post-record et rendu tout plus efficace. Pendant ce temps, le ministre coordinateur des affaires économiques, Darmin Nasution, espère que le programme de synergie de l'Action pour l'économie populaire peut résoudre divers problèmes liés au processus du titling de la terre, la fourniture de capital, l'achat de semences, d'engrais et des équipements de production, ainsi que la distribution après le récolte. Ainsi, les agriculteurs et les pêcheurs auront une position de négociation forte contre le prix de vente, le courage d'affronter les intermédiaires et ne pas inquiéter de leurs produits deviennent pourris et ne pas arriver aux consommateurs. Un observateur économique de l'Université de Widyamandira Kupang, Thomas Olalangodai, apprécie le programme de synergie de l'Action pour l'économie populaire. Selon lui, le lancement de ce programme est l'élan exact et sur la cible, car il peut contrôler les prix des produits au marché pour le bien-être des agriculteurs. En outre, il peut diminuer également le taux de pauvreté si le programme sera également mis en œuvre dans toutes les régions. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
L'Indonésie et l'Inde sont les deux grands pays d'Asie qui ont beaucoup de similitudes dans l'histoire. Cela est une forte capitale dans l'établissement de la coopération entre les deux pays. Le président du Conseil des représentants régionaux de la République d'Indonésie, M. Irman Gusman, a déclaré jeudi à Jakarta qu'avec la Chine, l'Indonésie et l'Inde devraient devenir une géante région qui est devenue le centre de la croissance mondiale. Par conséquent, selon Irman, l'Indonésie et l'Inde ont besoin d'améliorer toujours la coopération.
Sebagaimana Anda tahu, ya, Indonesia bersama India dan Tiongkok.
Comme vous le savez, l'Indonésie, l'Inde et la Chine, trois pays géants en Asie du Sud-Est, qui sont devenus le centre de la croissance mondiale. Par conséquent, cette coopération est très importante, en particulier en Asie comme centre de croissance du monde. En raison des trois pays projetés, seront les quatre pays plus grandes économies de l'année 2045 avec les États-Unis. Donc, nous devons maintenir cette relation. En plus de maintenir les relations dans un effort pour améliorer l'économie des deux pays, l'Indonésie et l'Inde, selon Irman Gusman, ont également besoin de renforcer la coopération parlementaire. Il est destiné à encourager la coopération dans le domaine du développement, de la bonne gouvernance et l'augmentation des relations communautaires entre les deux pays. L'ambassadeur de l'Inde en Indonésie et au Timor-Leste a organisé le 125e anniversaire de la figure nationaliste indienne, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, jeudi à Jakarta. Il est une figure importante en Inde qui définit la base de constitution pour le gouvernement indien et même pour les problèmes modernes qui sont actuellement confrontés dans le monde, comme la traite des êtres humains, frappée également en Indonésie. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de l'Inde en Indonésie, Ningcha Lufum Mukhopadhyaya. Selon l'ambassadeur Ningcha, l'Indonésie et l'Inde ont les similitudes qui unissent les deux pays dans les relations très étroites. En outre, ils ont la diversité, ce qui rend l'Indonésie ressemble à l'Inde dans divers sens. Selon lui, l'Inde peut tirer des leçons de l'Indonésie en termes de gestion de la diversité et de combler les différences.
Coming from our own experience as an open, pluralistic democracy.
Nous avons les expériences pays avec la démocratie pluraliste ouverte, une multitude de religions, d'ethnies, de langues, la culture, de sorte que nous sommes comme voir du reflet d'un miroir lorsque nous regardons l'Indonésie. Similaire mais différent pour gérer et combler les différences. L'Indonésie a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. La célébration du 125e anniversaire de la figure nationaliste indienne, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, a été assistée par l'ambassadeur de Nengcha Lufum Mukhopadhaya, les autres fonctionnaires de l'Indie qui sont en train de faire la visite de travail en Indonésie. Le président du Conseil représentatif régional de la République d'Indonésie, M. Irman Guzman, et les académiciens des universités à Jakarta. L'ambassade d'Allemagne en Indonésie a déclaré que le secteur des affaires et le problème politique dans le monde seront la principale discussion lors de la visite du président Joko Widodo en Allemagne du 17 au 18 avril 2016. Dans une conférence de presse jeudi à Jakarta, l'ambassade d'Allemagne a déclaré que l'arrivée du président Joko Widodo à l'Europe occidentale vise à rencontrer les hommes d'affaires allemands. Le président Joko Widodo va aussi rencontrer la chancelière allemande Angela Dorothea Merkel et le président Joachim Gauck pour discuter de la crise régionale et internationale. Pour le gouvernement allemand, la visite du président Joko Widodo est importante parce que l'Indonésie est un pays qui a une influence dans les domaines politiques et économiques. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie augmentera la participation active et le leadership dans l'Organisation des Nations Unies. Cela a été déclaré par Dian Triansyah Djani lors de la remise de ses lettres de créance au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au siège de l'ONU à New York récemment. La communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères le jeudi a déclaré, lors d'une réunion bilatérale avec Ban Ki-moon, Dian Djani Triansyah a exprimé la détermination du gouvernement indonésien de continuer à promouvoir le principe de multilatéralisme pour résoudre les problèmes mondiaux, notamment ceux qui ont un impact direct sur les intérêts de l'Indonésie. À cette occasion, Triansyah Dian Djani a également affirmé l'engagement de l'Indonésie à continuer de renforcer la coopération avec les Nations Unies et affirmer la vision de l'Indonésie à renforcer son rôle dans la mission de maintien de la paix de l'ONU. En outre, l'Indonésie continuera à encourager la liberté palestinienne et le respect des droits de l'homme dans le monde, ainsi que la coopération au développement, y compris maritime. L'ambassadeur de la Corée du Sud à l'Indonésie, Chao Teng-yang, demande l'aide du Parlement indonésien de renforcer les relations bilatérales entre la Corée du Sud et l'Indonésie. Cela a été déclaré par Chao Teng-yang quand il a rencontré le président du Parlement indonésien, M. Ade Komarudin, au Parlement Jakarta jeudi. Selon lui, jusqu'à présent, l'Indonésie est le premier stratégique de la Corée du Sud en Asie et dans le monde entier. Les relations entre les deux pays sont très bonnes. L'Indonésie et la Corée du Sud sont les partenaires stratégiques en Asie et dans le monde. Le président indonésien Joko Widodo va imposer un moratoire sur l'octroi de licences de nouveaux terrains de palmiers à huile et de mines. Le plan de l'application de moratoire est comme un effort pour préserver l'environnement. Le président Joko Widodo, tout en participant au mouvement national de sauvetage de la flore et la faune sauvage dans le cadre de la Journée internationale de la forêt sur l'île de Karya, au Mille-Îles, a déclaré jeudi que les terrains de palmiers à huile qui existent aujourd'hui étaient suffisants et peuvent être augmentés la capacité de production en maximisant le potentiel existant. De même avec les terres de mines, selon le président, le gouvernement ne donnera pas les licences aux sociétés minières de défricher des terres pour l'élargissement de son territoire. Le président a souligné que l'Indonésie devait augmenter toujours ses efforts pour conservation de l'environnement. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons présenter le village touristique Cikendung, situé dans la province de Java Central. Pemalang est l'une des régions dans la province de Java Central, située sur la côte nord de Java. La distance entre Semarang, comme capitale de Java Central, et Pemalang est environ 135 km. Cette région est sérieuse pour développer le potentiel touristique en 2016 pour augmenter les visites touristiques à Pemalang. Elle développe un village touristique, Cikendung, situé dans le quartier Pulau Sari, à environ 45 km au sud de Pemalang. Ce village est connu comme le village au pied du Mont Selamat qui a l'air frais. Le village touristique Cikendung est situé à 700 mètres au-dessous du niveau de la mer, environ 1h30 de la ville de Pemalang. Il est connu comme le village touristique de la culture. Les populations locales conservent encore les traditions et la culture de leurs ancêtres, comme par exemple la danse Sila Kupang. Cette danse est jouée environ 1 heure par 10 danseurs, 8 danseuses et 2 danseurs. Le village de Cikendung est situé à proximité de la belle colline Besek, avec une vue panoramique de la nature verte. Ici, vous pouvez faire de la randonnée sur la colline Besek après avoir atteint le sommet de la colline Besek. Et s'il fait beau, vous pouvez voir une vue de 7 sommets des montagnes qui seront visibles à partir du sommet Besek, à savoir le sommet Dumong Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, Dieng, Slamet, et Cermai. Le paysage du sommet de la colline est très beau. Après avoir gravi la montagne Besek, et quand vous êtes fatigué et affamé, vous pouvez profiter d'une variété de la cuisine typique de ce village touristique, comme par exemple le riz au maïs. Ce plat est bon, surtout si on mange avec urap. C'est les légumes bouillis mélangés avec la noix de coco râpée épicée bouillie. Les janchua et aussi le sambal ontok, fait à partir de piment, l'oignon, l'ail et la pâte de crevette qui sont frites et ensuite broyées. L'attraction touristique de Rumah Pohon, en français la maison de l'arbre, sera présente dans le village touristique Cikendung. Elle est actuellement en construction. Ici, vous pouvez profiter de la vue du lever du soleil à partir du haut de l'arbre et les collines, comme la colline Besek et Salaman. Près du village de Cikendung, il y a aussi une cascade qui peut être visitée. Pour passer la nuit dans ce village touristique, vous pouvez séjourner dans une auberge ou chez un habitant. Bon, chers amis, vous avez écouté tout à l'heure le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
La
et couleur, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre Le Pont Rouge Blanc. Chers auditeurs, le 4 avril, le président Joko Widodo a inauguré le Pont Rouge Blanc qui passe la ville d'Ambon au Molouk. Ce pont qui étire le long de 1140 mètres est le plus long pont à l'est de l'Indonésie. Est aussi la nouvelle icône de la ville d'Ambon. Le pont situé juste au golfe d'Ambon relie le village Rumah Tiga ou Poka, le district Sri Rimau au nord et le village Hatif Kecil ou Galala, le district de Teluk Ambon au sud. La construction de ce pont vise à soutenir le développement de la fonction de la zone du golfe d'Ambon en conformité avec la mise en page de la ville d'Ambon. Dans la mise en page de la ville d'Ambon, le village de Rumah Tiga est placé comme la zone éducative et le village de Durian Patah Telaga Kodok comme zone résidentielle. Serviteur, en plus de soutenir le développement de la fonction de la zone du golfe d'Ambon, le pont rouge blanc est construit pour raccourcir la distance et le temps de voyage de la ville d'Ambon à l'aéroport Patimura et vice-versa, de sorte que les coûts opérationnels peuvent être réduits. Avant qu'il y ait le pont rouge blanc, la distance de l'aéroport international Patimura à la ville d'Ambon est d'environ 35 km, qui doit être pris pendant 60 minutes en tournant autour du golfe d'Ambon. L'autre alternative est à utiliser un ferry entre le village de Rumah Tiga, Poka et Galala, prend environ 20 minutes. Le plus long pont à l'est de l'Indonésie a commencé à construire le juillet 2011 et a finalement été achevé en mars de cette année, en absorbant des fonds d'environ 772,9 milliards rupiah provenant du budget de l'État par plusieurs années. Ce pont est un type de pont spécial avec le système de pont à auban avec la distance entre la pylône de 150 mètres. Ce pont a été nommé plus tard le pont rouge et blanc parce que les Moluques sont inclus dans cette province qui établissent l'État de l'Indonésie après l'indépendance. Lorsqu'il n'y a aucune autre province, les Moluques sont devenus la province qui reconnaît l'Indonésie. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir avec le titre Le Pont Rouge Blanc. Demain, nous nous retrouvons avec le sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Cette fois, nous allons présenter des chansons de dangdut chantées par une chanteuse qui s'appelle Elvi Zubai. Voici la première chanson intitulée Les yeux.
Wahai semua umat manusia, bertaubatlah kau segera. Jangan karena usiamu masih muda, lalu engkau menunda-nunda. Wahai semua
segera.
Jangan karena usiamu masih muda, lalu engkau menunda-nunda. Karena saatnya menjelang ajal, tiada dapat ditentukan.
Vous écoutez toujours la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta et vous êtes en train d'écouter notre programme musical. C'était la première chanson de Dangdut, intitulée « Les yeux » chantée par Elfie Zubay. Elle est une belle femme qui a du talent extraordinaire en termes de chant. Elle est créateur de chansons. En outre, à présent, elle est l'organisateur de l'Association des artistes de la musique malais. Le premier album intitulé « Sensi » Les paroles sont créées par O4S. La chanson parle de la jalousie. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Elfie Zubay intitulées « Sensible ».
curiga lagi. Marahan-marahan lagi, bikin pusing kepala.
Merci de Kota Labua, di Indonesia di Fuzo depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons de dangdut chantées par Elfie Zubai. En raison de sa préoccupation de l'état de musique dangdut en Indonésie, avec l'association des artistes de la musique malais, ils ont publié l'album dangdut de compilation avec d'autres artistes dangdut célèbres tels que Roma Irama, Ika Nurjana, Evi Tamala, Titi Faramida, Ayu Soraya, Yus Yunus, Mara Karma et Hendro Saki. On espère que cet album peut motiver les artistes de dangdut de continuer à travailler plus innovant. Pour améliorer la musique de dangdut, il faut avoir la coopération entre le compositeur, chanteur, producteur d'enregistrement et distributeur. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, on va présenter deux chansons suivantes, intitulées « Selingkuh Denganku » et « Tergantung ». Merci à tous et à bientôt.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine la mission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.